parce qu'on ne peut savoir où l'on va sans savoir d'où l'on vient. Passeur de mémoire, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'histoire en partenariat avec l'Union nationale des combattants et la Voix du combattant.
Eh bien, pour en reparler très précisément, disons que tout commence à Paris au matin du 9 novembre 1938. Ce matin-là, un employé, un attaché d'ambassade de l'ambassade d'Allemagne en France, von Rath, est abattu de plusieurs coups de pistolet par un homme. L'assassin est aussitôt arrêté, il se déclare juif et anti-nazi. Alors, le soir même, à travers toute l'Allemagne, les chemises brunes du parti nazi déclenchent un gigantesque pogrom. Dans de nombreuses villes et villages, les synagogues sont incendiées. Les ouvrages religieux écrits par ou appartenant à des juifs sont brûlés en place publique. Auto da fé symbolique pour les nazis. Les magasins sont pillés, les vitrines brisées, des femmes violées, des enfants massacrés, 91 personnes assassinées dans la nuit et le lendemain, 30 000 déportées. Le lendemain aussi, au cours d'un gigantesque rassemblement du parti, Adolf Hitler juge ces événements parfaitement sains et tout à fait raisonnables.
Après les accords de Munich, les habitants du Reich, y compris les habitants de l'ex-Autriche, croient à la paix préservée et comme les autres Européens manifestent leur jubilation. Adolf Hitler est dépité par les acclamations populaires dans son pays même. « Avec ce peuple, je ne puis encore faire une guerre », se plaint-il. Lui-même a curieusement le sentiment d'avoir cédé à Munich en ne faisant pas immédiatement la guerre et il voudrait montrer à son peuple, comme aux puissances étrangères, qu'il ne se laissera plus manœuvrer. Hitler déplore aussi qu'un quart seulement du demi-million de juifs allemands ait immigré au bout de 5 ans de brimades et de lois antisémites. Il souhaite accélérer le mouvement pour que le Reich devienne enfin Judenfrei, sans aucun juif. Et voilà que se présente l'occasion de reprendre la main. C'est l'agression, le 7 novembre, d'un conseiller de l'ambassade d'Allemagne à Paris, Ernst von Rath, par un jeune juif polonais. Dernière émission de cette première semaine de commémoration de la déclaration de guerre de 1939, on se retrouve comme d'habitude après une première petite pause pour développer cette nuit de cristal.
Thank you.
Le 7 novembre 1938, au matin, un jeune homme se présente à l'ambassade allemande de Paris et tire à vue sur le conseiller Ernst von Rath, le blessant mortellement. Selon l'enquête officielle consécutive à l'assassinat de von Rath, le meurtrier voulait tuer l'ambassadeur lui-même. Il était entré dans l'ambassade et avait choisi, en définitive, de tirer sur le premier venu. Le meurtrier est un juif polonais de 17 ans, Herschel Greenspan. Ses parents ont fui en 1914 leur pays et se sont réfugiés à Hanovre en Allemagne. Mais voilà que le gouvernement polonais, désireux de prévenir le retour de ses citoyens juifs du fait des persécutions allemandes, décide de priver tous les Polonais exilés depuis plus de 5 ans de leur citoyenneté, sauf à revenir avant le 29 octobre 1938. La police allemande riposte en expulsant vers la Pologne tous les juifs de ce pays. 12 à 15 000 de ces malheureux, y compris les parents de Greenspan, devenus indésirables dans leur patrie, errent dès lors dans le no man's land de la frontière germano-polonaise. C'est donc pour venger ses parents que le jeune homme aurait voulu tuer l'ambassadeur allemand quelques jours plus tard. Notons que le gouvernement de Varsovie, irrité par la présence des apatrides juives à sa frontière, menacera d'expulser en représailles les Polonais d'origine allemande. Le gouvernement de Berlin ne se le fera pas dire deux fois et acceptera de reprendre les fuyards polonais pour les interner sur son sol. C'est un signe, parmi d'autres, qu'avant la guerre, le gouvernement hitlérien était encore sensible à un langage de fermeté.
Des fleurs dans un jardin. Certains soirs, il me semble entendre dans le cockpit comme une voix d'enfant entre les parasites. Un enfant qui dit s'il vous plaît, monsieur, dessine-moi la paix. Thank you.
À l'annonce de la mort de Von Rath dans la soirée du 9 novembre, tandis que Hitler et tous les dignitaires nazis se retrouvent à Munich pour commémorer le putsch de la brasserie, le ministre allemand de la propagande, Joseph Goebbels, dénonce un complot juif contre l'Allemagne. Pour consolider la thèse du complot, il rappelle, opportunément, un autre attentat qui avait eu lieu en Suisse en 1936 lorsque l'étudiant juif David Frankfurter avait assassiné le chef des nazis locaux Wilhelm Gustloff. Cet attentat n'avait suscité sur le moment aucune réaction de la part d'Hitler car la même année se tenaient à Berlin les Jeux Olympiques et les nazis n'étaient pas encore en état de défier les démocraties. Ayant rallié le Führer à son idée, Goebbels mobilise dans la nuit du 9 novembre les militants nazis avec le concours des Gauleiter, les gouverneurs de région réunis à Munich. Il jette les militants nazis dans les rues pour un pogrom de très grande ampleur à l'image des émeutes anti-juives qu'encourageait au 19e siècle l'administration du tsar. Mais officiellement, à la radio, le soir même, il veille à ne pas parler de violences spontanées et s'offre même le luxe de les déplorer. Les agresseurs sont pour la plupart en tenue de ville pour laisser croire à un mouvement populaire spontané. Des escouades de SS participent aussi au pogrom, mais contre l'avis de leur supérieur et de Heydrich, lequel le leur a interdit par un télétype officiel. Près d'une centaine de personnes sont tuées à l'occasion de ce gigantesque pogrom. 267 synagogues sont pillées, saccagées et brûlées. 7500 magasins sont également pillés. La violence dépasse les bornes de Berlin et devient annexée au Reich en mars 1938, où vivent les plus importantes communautés juives. Les Allemands ordinaires assistent, un pas vide, au désordre. Très rares, notons-le, sont les Allemands qui tentent de secourir leurs concitoyens persécutés. Les églises elles-mêmes restent silencieuses pendant et après le drame.
Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey,
on y range les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis.
Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque.
Hey, aïe, 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 aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
Petit peuple berlinois donnera à ses premières violences antisémites planifiées en Allemagne le nom poétique de Nuit de Cristal, en allemand Reichskristallnacht, en référence aux vitrines et à la vaisselle brisée cette nuit-là. À cette appellation, passée dans l'histoire mais empreinte d'un certain cynisme, les historiens allemands préfèrent celle de November Pogrom, le pogrom de novembre. Le Reich Marshal Hermann Göring, responsable de la politique économique du Reich et du plan quadriennal, réunit une conférence interministérielle dès le 12 novembre 1938 pour tirer les conséquences du pogrom. Son procès-verbal figurera au procès de Nuremberg après la guerre.
Militaires d'active, réservistes, vous avez le droit de rejoindre l'Union Nationale des Combattants. L'UNC est l'association de référence pour la solidarité et la défense de vos droits. Parce qu'il est important d'être bien compris, rejoignez l'UNC. Informations sur le site unc.fr ou au téléphone au 01 53 89 04 04. 01 53 89 04 04, prix d'un appel local.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground, crash through the surface where they can't hurt us. We'll fall from the shallow now, in the shallow.
À l'occasion de cette conférence, la communauté juive est taxée d'une énorme amende pour cause de tapage nocturne, ça ne s'invente pas, et 1 milliard de marques sont prélevées sur les 7 milliards d'avoirs juifs bloqués en avril 1938 sur les comptes bancaires. En dehors de toute légalité, les assureurs sont contraints de verser à l'État allemand les remboursements dus à leurs assurés. Pour Hermann Göring, c'est un début de solution au crucial manque de devises qui affecte l'État. Les organisations juives sont par ailleurs dissoutes et la presse juive supprimée. « Je n'aimerais pas être un juif en Allemagne », conclut Göring avec un cynique bon sens. Il suggère aussi, sur le ton d'une mauvaise plaisanterie, « Nous donnerons aux juifs une partie de la forêt et Alpers veillera à ce que les animaux qui ressemblent aux juifs, en faisant référence à l'élan au museau crochu, aillent dans l'enclos des juifs et s'y installent. Il est vrai qu'après la nuit de cristal, les juifs qui n'auront pas encore réussi à émigrer seront très appauvris et soumis à une effroyable ségrégation. »
Softly creeping, left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sounds of silence.
Près de 35 000 juifs sont arrêtés pendant la nuit de cristal et envoyés dans des camps de concentration, principalement à Dachau et à Buchenwald. Ils seront pour la plupart libérés contre rançon et avec obligation de présenter un visa d'émigration. L'émigration va s'accélérer dans les mois suivants malgré les obstacles dressés par les autres pays. La moitié des 500 000 juifs austro-allemands encore présents dans le Reich après la nuit de cristal seront partis après le regain de violence des années 1938 et 1939. Conséquence notable des débordements cafouilleux des SA pendant la nuit cristal, la question juive, en allemand Judenfrage, était le lot de différents acteurs agissant dans le sens de la volonté du Führer, va revenir désormais exclusivement à Heydrich et à Himmler, autant dit aux SS, les Schutzstaffel, le corps d'élite fanatique de l'État hitlérien.
Hey guys, this is Brian from Maui, and you're listening to our new single, Blame, on Radio Combatendus de France.
Anticipating, patiently waiting for you to let go, giving to me. First thing in the morning, it's you that I'm wanting. Wherever you are is where I wanna be. Just ease your mind, let go of time. Baby, put your trust in me, your trust in me. Don't go away, don't ask me why. Baby, just stay.
De la nuit de cristal donne lieu à une réprobation quasi unanime à l'étranger, mais sans qu'il s'en suive des mesures concrètes. Un grand débat a lieu à la Chambre des communes à Londres, et les Britanniques, dans la foulée, proposent aux Américains de sacrifier leur quota de 60 000 migrants par an au profit des Juifs du Reich, mais leur offre est refusée par Washington. Le gouvernement français est le seul à s'abstenir de toute condamnation publique car il ne veut pas compromettre une prochaine rencontre franco-allemande. Il rend hommage au diplomate Ernst von Rath le 12 novembre 1938, soit 5 jours avant ses funérailles officielles à Berlin. Après cet excès de zèle, le ministre des Affaires étrangères, Georges Bonnet, peut accueillir son homologue Joachim von Ribbentrop pour la signature d'un accord de coopération.
Jordan in a white suburban bedroom in a white suburban town. As she lay there beneath the covers, dreaming of a thousand lovers, till the world turned to orange and the room went spinning round. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her head. So she let the phone keep ringing and she sat there softly singing off to work, and the kids were off to school, and there were oh so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours, or rearrange the flowers, or run naked through the shady street, screaming all the way. Seven. She realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her head. So she let the phone keep ringing as she sat there softly singing. She climbed when all the laughter grew too loud. Then she bowed and cursed to the man who reached and offered her his hand. And he led her down to the long white car that waited past the crowd. At the age of 37, she knew she'd found forever as she rode along through Paris with the warm wind in her hair.
Soulignons que si la nuit de cristal inaugure les violences de masse contre les juifs, l'extermination n'est pas encore d'actualité. Le journal de la SS publie le 24 novembre 1938 un éditorial dans lequel il est écrit que les ghettos constitueront des nids de criminels et que le meilleur moyen de s'en débarrasser est d'y mettre le feu. Mais c'est une exception et l'on ne trouve à ce moment-là nulle part ailleurs d'allusion à un massacre organisé. Hitler lui-même a dans l'esprit de chasser les juifs du Reich. Il garde la conviction que chaque pays européen doit régler sa question juive par ses propres moyens. Quand il prononcera le 30 janvier 1939 un discours devant le Reichstag, le Parlement, faisant pour la première fois allusion au possible anéantissement de la race juive en Europe en cas de guerre, il aura encore en tête l'idée de les refouler, ces juifs, dans un vaste ghetto où ils mourraient à petit feu. C'est le projet Madagascar. L'idée d'une extermination de masse ne s'ébauchera qu'après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.
Thank you. Goebbels écrit dans son journal qu'il se rendait tous à un meeting à Munich, ce soir du 9 novembre 1938. C'est là qu'ils ont appris que von Rath, un conseiller de l'ambassade d'Allemagne à Paris, venait d'être abattu par un jeune juif du nom de Herschel Greenspan.
Goebbels réagit violemment à l'arrestation de Herschel Greenspan. Il y voit une occasion parfaite pour déclencher une action.
Goebbels a demandé à Hitler, est-ce qu'on laisse les manifestations prendre de l'ampleur? En fait, il s'agissait de pogroms qui avaient commencé à éclater un peu partout. Et Hitler a dit, oui, laissez ces manifestations continuer.
Interview de Yann Kershaw, l'historien qui a beaucoup étudié cette nuit de cristal. Voilà pour cette première semaine de commémoration du 80e anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Nous reviendrons début de semaine prochaine sur l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, qui fit qu'il y a 80 ans, nous entrions dans cette guerre qui fit pas loin de 60 millions de victimes. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur votre radio préférée. Quant à nous, on se retrouve lundi, parce que oui, c'est déjà le week-end. On se retrouve lundi, même heure, même endroit, pour une nouvelle semaine de passeurs de mémoire. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous à l'écoute des programmes de votre radio préférée. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à lundi. Ciao, ciao.